Voilà, la question, le pape, un souverain temporel, point d'interrogation. Poser la question ainsi aujourd'hui apparaît peut-être comme choquant, voire même blasphématoire. Le pape apparaît devant l'opinion comme une autorité morale, spirituelle, détachée des intérêts matériels, ce qui justement lui donne la liberté d'interpeller les grands de ce monde au nom de l'Évangile. Et pourtant, le pape a été l'un d'entre eux. Un d'entre eux, enfin un grand, je ne sais pas, mais au moins a été un chef d'État. Alors, deux images contrastées. Si vous voulez, la première, une nuit de juillet 1881, une foule romaine ameutée qui tente de s'emparer de la dépouille de son dernier souverain, la dépouille de Pie IX, qui est en train d'être transférée sur sa demande de la basilique Saint-Pierre à celle de Saint-Laurent hors les murs. Et ce que les émeutiers veulent faire, c'est la jeter dans le Tibre. La seconde image, c'est la vision, le 4 octobre 1965, de la frêle silhouette blanche du pape Paul VI à la tribune de l'ONU, s'adressant aux représentants de toutes les nations, seul l'ambassadeur d'Albanie s'est abstenu, pour leur délivrer un message de paix unanimement applaudi. Ces paroles, « Plus jamais la guerre, laissez tomber les armes de vos mains », n'ont pas fini de résonner aux oreilles de la conscience de l'humanité. Petit détail d'ailleurs, c'est qu'au moment de prendre l'avion à l'aéroport de Fiumicino, le pape avait été salué, accompagné par le président de la République italienne. Entre ces deux dates, bien des événements se sont passés au niveau international, et notamment deux guerres mondiales, mais un renversement s'est opéré. Si Pie IX apparaissait comme un souverain déchu, Paul VI, à la suite de ses prédécesseurs, Pie XI, Pie XII et Jean XXIII, était perçu comme une autorité morale dont les possessions temporelles, c'est-à-dire l'état de la cité du Vatican, eh bien, ces possessions n'étaient plus qu'un support matériel, nécessaire certes, mais bien secondaire. Et c'est donc cet épisode de la disparition des états pontificaux que nous allons relire un petit peu ensemble en la replaçant dans l'histoire. Donc le premier point, si vous voulez, je vais rappeler un petit peu l'histoire des états pontificaux jusqu'à la chute du premier empire. Alors, il est bien difficile d'assigner une origine à ce qu'on appellera plus tard les états du pape. Au moins, une étape importante de leur constitution est liée au pontificat de Grégoire le Grand. Grégoire le Grand, facile à retenir comme date, autour de l'année 600. Voilà. Il se trouve devant la disparition quasi complète des autorités civiles, notamment bon, l'exarque de l'empereur Constantinople. Eh bien, devant ce vide institutionnel, c'est le pape qui avait été préfet de la ville de Rome dans le civil, si je puis dire, c'est le pape qui va assurer l'administration municipale de Rome. C'est à lui que revient le premier problème, la gestion de l'annone, c'est-à-dire la nourriture de la population. Alors, son biographe, Paul le Diacre, dit qu'il avait à nourrir 3000 pauvres en permanence. Alors, ce qu'il va faire, il va acheter des terres en divers lieux, en Sicile, en Italie du Sud, en Afrique du Nord, en Sardaigne, même en Gaule. Chacun de ces patrimoines va être dirigé par un recteur, et puis il y aura des comptables et des fermiers. Et donc, voilà, l'évêque de Rome, il est également métropolitain par rapport à l'Italie du Sud, et finalement, eh bien, son autorité spirituelle va donc s'asseoir sur toute cette région. Finalement, le patrimoine de Sicile, qui représentait à peu près 1/9 de la superficie de l'île, va être confisqué par l'empereur de Constantinople en 732-733 et perdu pour la papauté. Mais voilà donc pour le début d'une autorité finalement temporelle du pape sur des terres. Alors l'autorité du pape va s'affermir progressivement sur toute la région du Latium, mais celle-ci au 8e siècle est sous la menace des Lombards. Bon, les Lombards, capitale Pavie, voilà. Pavie, un lieu que l'histoire de France oublie, bien entendu. 1515, Marignan. 1525, Pavie, mais ça, on oublie. Un choix décisif va être opéré par le pape Étienne II en 752-757, lorsqu'il choisit de se placer sous la protection du roi des Francs pour l'aider à résister aux Lombards. Le roi des Francs, c'est Pépin le Bref, et donc il va venir à Chiarzy, et le roi va lui promettre de le rétablir dans ses droits. Et le pape lui confère alors le titre de patrice des Romains, qui était un titre qui à l'époque était tenu par l'exarque de Constantinople. L'exarque, c'était celui qui tenait, si vous voulez, la souveraineté, qui était le représentant de la souveraineté de l'empereur de Constantinople sur l'Italie. Le problème, c'est qu'il n'avait pas beaucoup d'armées derrière lui. Alors, voilà, l'exarque, combien de divisions ? C'est là que, quand Pépin le Bref et surtout son fils Charles, Charlemagne, vont regagner le pouvoir, vont reprendre les terres qui avaient été enlevées au pape, eh bien, ils vont les rendre au pape. Alors, ils vont les rendre. Pourquoi les rendre ? Eh bien, parce que le pape va exhiber devant Pépin le Bref un document, la donation de Constantin. Alors, un document assez extraordinaire, signé de l'empereur Constantin, qui donne au pape la possession de toute l'Italie et puis qui lui donne la suzeraineté sur l'Empire d'Occident. Document extraordinaire, il a un tout petit défaut, c'est un faux. C'est un faux, mais on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Ça sera à la Renaissance, pardon, qu'un employé du Vatican, du Saint-Siège, je ne devrais pas dire du Vatican, un employé du Saint-Siège, il devait travailler au Latran, eh bien, a démontré que c'était un faux. Comme quoi, on n'est jamais trahi que par les siens. Enfin, pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc, le pape retrouve, on peut dire, le pape est dans tous ses états. Cependant, la possession des états pontificaux est tout sauf paisible. Les menaces sont récurrentes. Elles viennent tantôt des empereurs d'Allemagne, tantôt des Normands. Alors, évidemment, je fais signe, les empereurs d'Allemagne sont au nord, les Normands plutôt vers le sud. Je suis désolé, hein, les Normands, ils étaient aussi vers la Sicile, hein, pas seulement en Normandie. Et puis tantôt aussi les empiétements de l'aristocratie de la région de Rome. Vous savez comme moi l'histoire de la papesse Jeanne, enfin elle n'a pas existé bien entendu, mais en réalité c'est une dame nommée Marusi qui appartenait à l'aristocratie de la région romaine et qui a fini par placer son fils Jean sur le trône de Saint-Pierre. Et donc voilà, les gens ils se sont dit, ben, en voyant le fils on voit la mère, et donc ils l'ont surnommé la papesse Jeanne. À cause de sa maman. Alors, le patrimoine de Saint-Pierre donc, s'est augmenté et finalement, on a à peu près au XVe siècle les états de l'Église qui atteignent leur forme et leur composition, j'ai envie de dire, définitive. On a donc le Latium, bien sûr, le patrimoine de Saint-Pierre en Toscane, le duché de Spolète, la marche d'Ancône. Alors, la marche d'Ancône, c'est intéressant parce que c'est un port qui est sur l'Adriatique, et puis la Romagne. Voilà. Alors, on en est là. Le territoire est organisé au XIVe siècle, donc avec une structure, une administration. Dans chaque région, un recteur représente l'autorité pontificale. Et il n'y a que dans la marche d'Ancône qu'autour du recteur, il y a une sorte de petit parlement. Mais en réalité, la plupart du temps, le recteur, normalement un civil, est remplacé par un cardinal légat qui assure un lien direct avec le pape. Alors, voilà, vous voyez, on a une administration qui est vraiment tenue, qui est une administration de clercs et qui est tenue donc dans la main du pape. Évidemment, vous pensez peut-être à la figure de Jules II. Jules II qui repart avec une armée. Oui, Jules II, il y a deux figures. Hein. Il y a celui qui casse sa canne sur le dos de Michel-Ange, bien sûr. Mais aussi, en même temps, il est casqué, botté, et il fait la guerre. Et on le voit, qui veut prendre la forteresse de la Mirandole, et qui est comme un chef de guerre. Allez, la Mirandole, on y va. Bon. Vous savez, je défends un petit peu Jules II quand même, hein, parce que son prédécesseur, Alexandre VI Borgia, oula, qu'ai-je dit ? Oui, Alexandre VI Borgia, hein, ouais. Eh bien, il avait fait ce qui était impardonnable. Non, ce n'est pas d'empoisonner les cardinaux. Hein. Ce n'est pas d'avoir un fils et une fille. Non, non. Ce qui était impardonnable aux yeux des Romains de l'époque, c'est d'avoir donné à son fils César une partie des états pontificaux. Voilà. Et donc, Jules II, quand il fait la guerre, eh bien, il reconquiert finalement contre César ce qui lui appartient. Ce qui appartient au pape, je veux dire. Hein, pas à Jules II personnellement, et il en est bien conscient. Donc, le cadre d'autorité pontificale va demeurer relativement stable jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Cependant, l'autorité du pape comme souverain européen est peu reconnue. Un écart profond s'est creusé entre les méthodes traditionnelles de la diplomatie pontificale qui usent des armes spirituelles, l'excommunication et l'interdit. Ah, c'est le pire de tout, l'interdit. Ça veut dire que sur une surface donnée, je vous rappelle, il n'y a plus aucun acte du culte. Donc là, Les morts partent sans prière, les enfants naissent sans baptême. C'est le drame. Tout le monde ira en enfer. Et c'est l'arme la plus redoutable. Mais n'empêche que cette arme apparaît bien anachronique en face des autres souverains qui, eux, s'appuient sur la force des armes. Alors on voit même, en 1744, les Autrichiens, les Espagnols se livraient bataille sous les murs de Velletri dans les États pontificaux sans que le pape soit capable d'intervenir. Du point de vue matériel, le pape Pie VI, malheureux par Pie VI, il a un long épiscopat quand même, mais il meurt tragiquement, vous le savez, non loin d'ici, à Valence. Il entreprend l'assèchement des marais pontins. Et vous savez, les marais pontins étaient la cause d'une épidémie annuelle de malaria à Rome. Vous savez, le dicton, on dit qu'au mois d'août à Rome, il n'y a dans les rues que les étrangers et les chiens. Voilà. Oui, mais maintenant, c'est quand même moins risqué parce que depuis l'assèchement des marais pontins, qui a été commencé par Pie VI et terminé par Mussolini, il n'y a plus de problème de ce point de vue-là. Le pape part quand même à Castel Gandolfo, on ne sait jamais. Pie VI va quand même essayer d'introduire dans ses États des réformes modernes. L'abolition des gabelles intérieures qui entravaient la libre circulation. Vous vous rendez compte, tous les 20 km, grosso modo, vous deviez payer des droits pour continuer avec vos marchandises. C'était infernal. Création de douanes aux frontières, encouragement à l'agriculture, promotion de l'industrie textile, amélioration du système judiciaire, introduction du cadastre. Bonnes idées, hein. Le pape connaît qu'un succès relatif. Parce qu'ils se heurtent, évidemment, à une résistance de la part des privilégiés et qui vont même pousser les pauvres à se révolter contre l'autorité pontificale. Voilà. Alors, au début de la Révolution française, Pie VI a tenu une attitude prudente, malgré le rattachement d'Avignon et du comtat venaissin à la France. Mais la tension monte quand même après l'exécution de Louis XVI. Et puis, en 1796, voilà l'irruption d'une armée française en Italie. Vous connaissez l'histoire. Vous avez une grande armée qui est envoyée en direction de Vienne. Et puis on se dit, ça serait peut-être quand même bien de faire une action de diversion dans le nord d'Italie. On envoie là un jeune général prometteur, comment on l'appelle déjà? Oui, Napoléon Bonaparte, c'est ça. Et l'autre, Moreau, échoue en direction de Vienne. Mais Bonaparte lui réussit et il va rançonner le pape au traité de Tolentino. Et le pape devra livrer des œuvres d'art. Merci pour le musée du Louvre. Oui, on a oublié de les rendre, c'est un détail, mais on a oublié. On n'y pense plus d'ailleurs. Après l'assassinat du général Dufaux en 1797 à Rome, la ville est occupée par l'armée française. Il y avait déjà une troupe, mais là, c'est fini. Et le pape est mis dans un carrosse bien cadenassé. Et après plusieurs pérégrinations, il arrivera à Valence, où il va mourir le 29 août 1799. Son successeur, Pie VII, Chiaramonti, il est élu par un conclave réuni, j'ai envie de dire, comme il peut, à Venise. Parce que, vous voyez, Rome est occupée, toute l'Italie du Nord est occupée, c'est un peu un champ de bataille entre les Français et les Autrichiens. Il y a même des fois les Russes qui s'en mêlent. C'est pas facile de trouver un endroit où réunir le conclave tranquillement. Et là, il n'y a plus beaucoup de cardinaux disponibles. Il va être élu grâce à l'action d'un homme... assez remarquable, qui s'appelle Ercole Consalvi. Il faut dire que quand on a comme prénom Hercule, on est capable de faire pas mal de choses. C'est lui qui va donc faire élire le pape dans ces conditions, alors que le pape a tout perdu, il faut bien le voir. Il a tout perdu, il a perdu ses états. Et quant à l'Église, en Italie, elle est sous la férule de l'étranger. En France, elle a quasiment disparu. Il y a un peu de résistance, si vous voulez, en Vendée, en Bretagne, ou en Franche-Comté aussi. Mais plus de visibilité. Et donc, voilà où on en est. Tout va remonter grâce au Concordat, vous le savez, de 1800 à 1802, mais aussi grâce à l'action du pape et de Consalvi. Consalvi va essayer, après la chute de Napoléon, je passe à mon deuxième partie, vous voyez, la restauration des États pontificaux au XIXe siècle, il va essayer de reconstruire ses États, puisque 1814-1815, c'est le congrès de Vienne. Il va obtenir difficilement la restitution des États pontificaux, parce que, tenez-vous bien, c'est la puissance qui ne voulait pas les rendre, c'était une puissance catholique, c'était l'Autriche. L'Autriche qui était solidement assise dans le nord de l'Italie, elle se serait bien agrandie au détriment du pape. Et ce sont des hérétiques, il faut bien le dire, hein, les Anglais et les Russes, qui vont finalement soutenir Conte Salvi. Voilà. C'est à peu près ça qui va se passer. Alors le problème, c'est comment les réorganiser. Et c'est là une vraie question. Parce que vous pouvez avoir l'attitude qui était celle des émigrés revenus en 1815. Ils n'avaient rien appris, rien oublié. Voilà ce qu'on a dit d'eux. Vous pouvez avoir cette attitude-là en vous disant la révolution n'était qu'une parenthèse malheureuse, allez refermer maintenant, revenons comme avant. Ou bien, vous pouvez vous dire, la révolution et l'occupation française, notamment donc dans les états pontificaux, ça a laissé des traces. Et on ne peut pas faire comme si ces traces n'existaient pas. Quelque part, c'est l'empreinte de l'histoire. Alors, c'est l'idée de Conte Salvi. C'est que quand même, il faut moderniser. Il faut moderniser au point de vue administratif et il faudrait quand même essayer que, mettons, la bourgeoisie puisse avoir un petit peu voix au chapitre, c'est bien le cas de le dire, dans la gestion des divers États. Mais la curie romaine n'est pas de cet avis et va lutter avec persévérance contre Conte Salvi. Elle finira par gagner. Et puis, par ailleurs, la bourgeoisie ne le soutient pas vraiment, et il y a déjà contre lui, contre l'administration pontificale, les carbonari et les francs-maçons qui mènent déjà campagne et qui essaient, dès les années 1820, de recruter. La mort de Pie VII entraîne la chute de Conte Salvi. Est élu le pape Léon XII, qui apparaît comme le candidat du parti Zelante, parce que vous aviez deux sortes, les Zelanti et les Politicanti. Alors, si vous voulez, traduction française, les intransigeants et les libéraux. Voilà. Les Zelanti, c'est ceux qui disent revenons comme avant. Et les Politicanti, c'est de dire il faut faire des concessions, des compromis. Mais évidemment, c'est perçu comme une trahison par les autres. Alors, Léon XII apparaît comme l'élu du parti Zelante. Mais il va quand même se rendre au chevet de Conte Salvi mourant et lui demander conseil parce qu'il commence à se rendre compte de l'impasse dans laquelle il est en train de s'enfermer. Et puis Léon XII va prendre une initiative qui n'aura peut-être pas un succès énorme, mais quand même, il va relancer l'année sainte. Il va relancer l'année sainte. L'année sainte, alors bien sûr, nous venons en train d'une année sainte, mais ce n'est pas dans ce sens que j'envisage ici. L'année sainte, elle était célébrée avant tout à Rome. C'est l'occasion d'un grand pèlerinage à Rome. Alors celui de 1800, vu les circonstances, vous doutez bien, n'a pas eu lieu. Et là, en 1825, il relance l'année sainte. Et il va y avoir 120 à 150 000 pèlerins. Ne rêvons pas, sur les 150 000, il y a un millier d'étrangers, pas plus. Si vous voulez, je vous raconterai comment on fait pour aller à Rome, hein, mais c'est quand même un peu folklorique. Donc, voilà. Mais, n'empêche, il a initié ce qui va être très important dans la suite de l'histoire, c'est le courant menant les catholiques vers Rome. Voilà, c'est Léon XII. Alors, l'administration d'État pontifical, en revanche, va en sens inverse de ce que Conte Salvi avait essayé de faire. Restauration et extension de la juridiction épiscopale, rétablissement des procédures juridiques d'Ancien Régime, ordre moral strict dans la ville de Rome, ghettoisation aggravée des Juifs, dans la ville. Alors, une lutte énergique est entreprise contre le brigandage. Plusieurs carbonari sont exécutés avec grande publicité, mais la répression apparaît odieuse, mais demeure impuissante. Si vous voulez avoir un panorama de la situation, je vous renvoie à un grand classique de la littérature française, Le Comte de Monte-Cristo. Vous avez un panorama des brigands, n'est-ce pas, à une époque légèrement sous la monarchie de Juillet, hein, mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'époque de Léon XII. On est sous Grégoire XVI, c'est exactement pareil. La nuit, en dehors de Rome, il vaut mieux pas se promener. Et même dans Rome. Alors, Grégoire XVI, donc, après la parenthèse de Pie VIII, qui ne reste pas moins d'un an, Grégoire XVI, mort capellari, monte sur le trône de Saint-Pierre le 2 février 31. Mais la révolution menace les États pontificaux. Et jusqu'à Rome, je vais citer Philippe Boutry. Au nord des possessions du pape, les quatre légations de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì, rétrocédées non sans mal grâce à l'habileté de Conte Salvi, constituent par leur degré de développement économique un monde très éloignée des montagnes de l'Ombrie, du Latium rural et de la Rome des cardinaux et des prélats de Curie. Une bourgeoisie aisée et influente, des professions intellectuelles, les nouvelles classes urbaines, elle supporte à grand-peine le gouvernement des prêtres, qui les exclut presque totalement du pouvoir politique dans le cadre d'un absolutisme d'inspiration théocratique de plus en plus malaisément accepté. Les sociétés secrètes, dont Carbonari de diverses obédiences et francs-maçons, organisent et structurent une résistance tantôt sourde, tantôt ouverte au gouvernement pontifical et aux cardinaux légats. Le souvenir des procès organisés par le, en 1825 par le cardinal Rivarola, la guerre civile larvée qui déchire presque chaque localité entre familles libérales et sanfédistes. Alors les sanfédistes, c'était l'opposé des carbonari. Si vous voulez, c'était les catholiques qui, eux aussi, pratiquaient la terreur, pratiquaient l'enlèvement, etc. Mais là, du côté du pape, enfin théoriquement. Voilà. L'aspiration enfin des générations nouvelles à la formation d'une nation italienne, tout cela contribue à rendre fragile l'administration des provinces pontificales qu'ont enthousiasmé dans l'année 1830 les nouvelles des révolutions de France et de Belgique. Alors, je passe un petit peu rapidement, mais vous voyez, 1830, vous avez donc la révolution dans les états du pape. Grégoire XVI, pour s'en sortir, vous savez, évidemment, vous me direz, il envoie les gendarmes, il envoie la gendarmerie pontificale. Mais la gendarmerie pontificale, elle avait une spécialité. Soit, eh bien, ils jetaient leurs armes et ils s'enfuyaient, soit ils gardaient leurs armes et ils passaient aux insurgés. Franchement, on ne peut pas aller bien loin avec de telles troupes. Alors, dans ces cas-là, on fait appel à une vraie armée, l'armée autrichienne. L'armée autrichienne, là, elle se met au service du pape, elle reprend ses états. La France va intervenir aussi parce que la France se dit, oh là là, attention, l'Autriche, c'est quand même des réacs. Hein. Alors, s'ils remettent le pape sur son trône, bah, s'ils rétablissent son autorité dans ses états, il n'avait pas été détrôné quand même là. Eh bien... Mais à ce moment-là, il va pratiquer une politique autoritaire encore plus. Et la France, monarchie de Juillet, on se dit quand même, ça serait bien quand même que le pape mette un peu de libéralisme. Alors on va envoyer quelques troupes, et puis on va lui dire, bon, on t'a aidé maintenant, j'ai envie de dire, tu nous renvoies l'ascenseur, mais c'est un anachronisme, hein, vous l'avez compris. Ils ne vont pas réussir. Grégoire XVI fera de vagues promesses, et il ne réformera rien. Voilà. Alors, je passe au pontificat de Pie IX. Et là, il est élu en 1846. C'est l'évêque d'Imola. Imola, bien connu, hein, à cause du pape, bien sûr. Mais peut-être aussi autre chose maintenant. Alors, il apparaît comme un réformateur modéré. Il fait quelques réformes timides. Alors, le problème, c'est que les libéraux trouvent qu'il n'est pas allé assez loin. Et les autres trouvent qu'il commence à aller déjà bien loin. Alors, il met en place à Rome un conseil consultatif. Un conseil communal, un conseil des ministres. Bon, il demeure quand même ambigu et hésitant. Et puis survient l'année 1848. L'année 1848, c'est l'année de tous les dangers, l'année de toutes les révolutions. Il n'y a pas que la France, hein, bien sûr. Vous avez la révolution en Autriche. Et vous avez justement à ce moment-là le roi de Piémont, Charles Albert, qui va en profiter pour déclarer la guerre à l'Autriche. En effet, l'Autriche... possède encore le nord de l'Italie, hein, le nord de la péninsule. Et le roi de Piémont-Sardaigne voudrait réaliser l'unité italienne. Et il y a des gens, il y a des prêtres même, il y a Gioberti notamment, qui sont de cet avis en disant eh bien, il verrait bien une double monarchie, c'est-à-dire le roi de Piémont-Sardaigne comme roi temporel et le pape comme souverain spirituel d'une Italie unifiée. Alors, la première étape, c'est de libérer l'Italie du joug autrichien, qui était quand même ressenti comme brimant, vous voyez. Bon. Et donc, il déclare la guerre. Mais il n'est pas assez fort. Alors, il va demander l'aide du pape, l'aide de l'armée pontificale. Bon. Et le pape va refuser. Le pape va refuser. Bon, il faut le comprendre. Une guerre, pour être licite, d'après la théologie catholique, ça ne peut être qu'une guerre de défense. Or là, au contraire, on est en train de faire une guerre offensive, qui plus est contre une puissance catholique. Il y a toutes les raisons de refuser. Mais le refus de Pie IX, eh bien, est un refus qui va blesser profondément le roi de Piémont-Sardaigne et les Piémontais, d'autant qu'ils vont être vaincus. Vous voyez, ils vont être vaincus. Oh, je ne sais pas si le pape les avait aidés, s'ils auraient triomphé, hein, je ne suis pas du tout sûr. Mais le pape a refusé de les aider et ils ont été vaincus. Alors, le roi doit céder la place à Victor Emmanuel II. Et voilà. Alors, le pape, eh bien, il doit faire face à Rome à une forte agitation. Alors, il a pris un premier ministre, Rossi, Pellegrino Rossi. Non, ce n'est pas un saint. Hein. San Pellegrino, c'est un autre. Pellegrino Rossi, mais lui, il va être presque martyr parce qu'il va être assassiné. Il va être assassiné au moment où il va... il a quitté le pape, et il s'est entretenu avec le pape, il a quitté le pape, il va à la chambre présenter le programme de réforme et il est assassiné là. Pendant 2-3 jours, c'est l'hésitation du pape. La révolution est dans la rue. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Son entourage va le pousser à partir et il va partir. Il va partir, il va se réfugier à Gaète. Alors c'est au nord du royaume de Naples, qui est, vous voyez, juste au sud, vous voyez à peu près là. Bon, je n'ai pas fait, je n'ai pas mis de carte, hein, mais vous voyez l'Italie, comment c'est fait. Vous dites que Rome, c'est à peu près au milieu, hein, n'est-ce pas? Bon, le Piémont-Sardaigne, vous voyez où c'est au nord-ouest, hein, bien sûr. C'est Turin, la capitale. Hein, bon, et puis il y a aussi la Savoie qui en fait partie. Hein, je ne sais pas si ici, il y a des Savoyards, donc il faut bien voilà, il faut bien le rappeler, hein, que voilà, nous sommes avant 1860, donc, bon. Et puis, vous avez le royaume de Naples et des deux Siciles qui est au sud. Donc, Pie IX se réfugie à Gaète, au nord, à la jonction, si vous voulez, la limite sud de son royaume, mais dans le royaume voisin. Et puis là, eh bien, à nouveau, l'Autriche et la France vont intervenir, et particulièrement la France, qui va reprendre Rome. Qui va reprendre Rome, où pendant ce temps, eh bien, la révolution s'est déchaînée. La révolution, d'ailleurs, la République a été proclamée, mais au début, les Romains, même révolutionnaires, ne voulaient pas voir partir le pape. Enfin, ils lui ont offert de revenir, hein, mais lui ne voulait pas revenir, parce que, vous comprenez bien, il se serait perçu comme otage. Hein, et donc, c'est l'armée française qui va intervenir. Alors, pourquoi l'armée française va-t-elle intervenir ? Eh bien, évidemment, je vais faire référence à Montalembert, hein, je ne peux pas faire autrement. C'est au moment de l'élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte, donc à la fin de l'année 1848, que Montalembert l'a assuré des votes catholiques à condition que la France intervienne. Alors, voilà, donc Pie IX est rétabli sur son trône. Il a à côté de lui le secrétaire d'État, Giacomo Antonelli, qui va mener une politique quand même réactionnaire. Cette politique réactionnaire a commencé avant même le retour du pape. Un mot court alors à Rome, Grégoire XVI est ressuscité, il règne à nouveau au Quirinal. Alors la France, évidemment, n'est pas bien dans cet avis, parce que Louis-Napoléon Bonaparte, vous voyez, un petit peu, lui, il a quand même fréquenté un petit peu les Carbonari, alors il veut bien donner un coup de main au pape, mais il faudrait que le pape évolue, quoi, hein, et ça n'est pas le cas. Donc, voilà, et la situation est difficile. La situation est difficile avec le Piémont, qui s'est aussi largement durci. La loi des couvents, en 1855, va supprimer une partie des chapitres collégiaux et tous les ordres religieux, sauf ceux qui sont enseignants ou hospitaliers. Autrement dit, ceux qui sont utiles, entre guillemets. Et ça, c'est la philosophie des Lumières. Voilà. Alors, bon, Pie IX va répondre en excommuniant tous ceux qui ont collaboré à cette législation. Mais quand même, sous-main, il y a quand même des tractations un petit peu qui se font. La question de l'avenir des États du Pape est posée à l'opinion publique lors d'un congrès diplomatique tenu à Paris en 1856. Cavour, c'est le Premier ministre, Camille Cavour, Premier ministre du Piémont, communique aux membres un rapport de l'ancien ministre de Pie IX, Minghetti, qui montre l'urgence de réforme. Donc il y a une grosse polémique, si vous voulez, sur l'administration des États du Pape. C'est assez curieux, vous avez les diplomates du monde entier qui mettent leur nez dans l'administration des États pontificaux pour dire « c'est mal administré, ça va pas, il faut réformer ». Je ne dis pas que le pape aurait envie de leur dire « lâchez-moi les baskets », mais on pourrait se poser quand même la question de cette ingérence, n'est-ce pas? Bon. Mais c'est un petit peu ce qui se passe au Congrès de Paris. Vous avez l'ambassadeur anglais, Clarendon, qui va appuyer les critiques, mais l'ambassadeur de France à Rome va réfuter les critiques. Alors, il semble quand même qu'il ait eu raison, cet ambassadeur de France. Mais, si vous voulez, vous avez quand même une politique réactionnaire de Pie IX qui ne passe pas auprès de l'opinion publique. Vous avez notamment l'affaire Mortara. L'affaire Mortara, j'étais dans un colloque il y a quelques semaines sur l'anniversaire de Nostra Aetate, sur les rapports entre chrétiens et juifs. Évidemment, l'une des participantes, historienne illustre, a jeté à la figure de l'Église catholique l'affaire Mortara, une fois de plus. Bon, Mortara, de quoi il s'agit ? C'est un petit enfant juif, donc à Bologne, une famille de Bologne qui a une servante catholique, c'est normalement interdit, mais bon, c'est le cas. L'enfant a des problèmes de santé étant petit, la servante le baptise en cachette, hein. Et puis quand l'enfant est plus grand, eh bien, voilà, la servante se pose des problèmes métaphysiques en disant, mais il devrait quand même, étant chrétien, il devrait être élevé dans l'Église catholique. Donc elle alerte le Saint-Office qui va enlever l'enfant et l'élever dans une institution catholique, je ne sais plus bien laquelle, genre petit séminaire. Voilà. Alors l'éducation ne sera pas totalement ratée d'ailleurs, puisqu'il deviendra prêtre, mais quand même, ça fait scandale. Et ça fait scandale en France. Donc si vous voulez, l'opinion publique française, enfin au moins ceux qui lisent les journaux, eh bien, est quand même révoltée contre cette attitude, vous voyez, cette administration pontificale. Voilà, donc un petit peu cet état d'esprit dans ces années. Alors évidemment, le tournant, c'est la rencontre de Plombières, 21 juillet 58, l'entrevue de Plombières. Vous avez Napoléon III qui fait une cure thermale à Plombières dans les Vosges, et là, il va rencontrer Cavour, le Premier ministre du Piémont, et on va négocier, eh bien, finalement, une alliance entre la France et le Piémont pour faire la guerre à l'Autriche et reprendre enfin ces terres donc que l'Autriche occupe. Alors la guerre est là aussi une guerre offensive. Hein, je pourrais vous raconter les états d'âme des évêques français obligés par le Concordat de prier pour le succès des armes françaises alors que c'est une guerre totalement immorale au regard de la théologie catholique. Elle va quand même être couronnée de succès, donc il faut célébrer un Tédéum, merci mon Dieu. Avec Magenta et Solferino, belle victoire, atroce boucherie. Henri Dunant en profitera pour fonder la Croix-Rouge. Voilà. Et donc, ces terres, eh bien, qui étaient occupées par l'Autriche, vont revenir se rattacher au Piémont. Mais voilà qu'une partie des États pontificaux fait de même. Et voilà. Et vous avez aussi la question qui va être posée du sentiment de Napoléon III. Dans un livre, Le Pape et le Congrès, où on dit « Il n'est pas nécessaire que son territoire, au pape, soit très étendu. Nous croyons même essentiel qu'il soit très restreint. Un grand État voudrait vivre politiquement, perfectionner ses institutions, participer au mouvement général des idées, bénéficier des transformations du temps, des conquêtes de la science, des progrès de l'esprit humain. Le pape ne le pourra pas. Ses lois sont enchaînées au dogme. Son activité sera paralysée par la tradition. Son patriotisme sera condamné par sa foi. Le monde marchera et le laissera en arrière. Quant à cette possession elle-même, la ville de Rome en résume surtout l'importance. Le reste n'est que secondaire. Plus le territoire sera petit, plus le souverain sera grand. » Voilà, alors effectivement, vous voyez, on manie un peu l'oxymore là, mais on voit bien que en fait, c'est très typique, si vous voulez, de l'état d'esprit des hommes politiques européens à l'époque, c'est de dire le pape est incapable d'administrer un État de manière moderne. Et plein de choses s'y opposent. Donc, allez, qu'il y renonce, qu'il garde la ville de Rome parce que c'est le symbole, mais qu'il renonce au reste. Alors, bon, il va y avoir le fait accompli, puisque vous allez avoir aussi Garibaldi qui va s'en mêler. Alors Garibaldi, vous voyez, va prendre un petit peu à revers. Vous avez le Piémont, vous voyez, par le nord. Hein, la Romagne se rattache au Piémont, là on est vers le nord. Mais Garibaldi, lui, débarque en Sicile, débarque donc Palerme, Naples, fait tomber sans coup férir le roi de Naples, qui était surnommé pourtant Rebomba, le roi bombe, ah, oula, à cause de la répression. Et puis on remonte, et les États pontificaux seront pris, pardonnez-moi cette expression anglaise, en sandwich. Voilà. Alors, le problème est là, c'est qu'en 1860, eh bien, que reste-t-il au pape ? Il lui reste Rome et le Latium, et encore, parce que justement, eh bien, il y a les oeuvres pontificaux. Devant l'incapacité de l'armée pontificale régulière, n'est-ce pas, à s'en sortir, eh bien, vous avez un jeune prélat romain d'origine belge, nommé Xavier de Mérode, allez, encore un petit coup, le beau-frère de Montalembert. Eh bien, il a démarré l'organisation d'une nouvelle armée pontificale, mais qui, elle, va reposer sur le volontariat. Il fait appel à un général français, la Mauricière, Léon de la Mauricière, qu'il a connu en Algérie, pour réorganiser l'armée pontificale. Alors, ce général, il est un peu suspect à Napoléon III, parce qu'il n'était pas très fidèle à Napoléon III, qu'il avait même fait interner en forteresse. Et puis, finalement, le Napoléon III va donner son accord pour que la Mauricière se mette au service du pape et l'aide à organiser une armée. L'armée pontificale, lorsque la Mauricière en prend la direction, est surtout faite pour la parade. Elle comprend 11 bataillons de 600 hommes, mal armés, mal vêtus et indisciplinés. Les désertions sont fréquentes, les officiers incompétents, l'intendance inexistante, les fortifications abandonnées. Oui, vous me direz, il serait plus rapide de dire ce qu'il y a de positif. Ben, il n'y a pas grand-chose, justement. Alors, Mérode, donc, lance un appel à l'enrôlement volontaire. Il va rétablir une fonderie de canons, réorganiser l'arsenal, il fait construire des écuries, fait venir de Belgique des fusils à canon rayé, il fait installer des lignes télégraphiques, pardon, un bureau topographique. Et puis, il engage la lutte contre la corruption. Évidemment, il s'attire l'hostilité des membres de la curie, dont celle du secrétaire d'État Antonelli. La Mauricière et Mérode vont essayer de défendre Pérouse et Ancône. Alors, au prix d'un énorme travail, l'armée pontificale, c'est presque un miracle d'avoir organisé si vite, compte 18 000 hommes en mai 1860, répartis en 14 bataillons. Mais, voilà, la position française, elle est très ambiguë. L'empereur a rencontré le général piémontais Cialdini, qui lui demande la permission d'envahir l'État pontifical, et Napoléon III lui dit « Faites-le, mais faites-le vite », c'est-à-dire avant que l'armée pontificale ait pu s'organiser. Bousculez cette armée pontificale des Zouaves et allez-y. Bon, alors ça va être un échec, bien entendu, de l'armée pontificale. Je vais vous passer un petit peu les détails parce que l'heure tourne. Mais donc ça va être un échec. Le combat de Castelfidardo avec 10 000 hommes de l'armée pontificale qui sont opposés à 60 000. Alors le général de Pimodan, qui commande les troupes dont fait partie le bataillon franco-belge, est tué. Et puis, finalement, eh bien, le général La Mauricière va essayer de défendre Ancône, qui est assiégé. Alors Ancône, c'est important, puisque je vous disais, c'est le port sur l'Adriatique, c'est un lieu stratégique. Et finalement, les bateaux piémontais vont réussir à faire sauter les défenses de la ville et le général doivent se rendre. Donc là, c'est à peu près terminé. Vous voyez, il ne restera donc plus, comme je vous le disais, que Rome et Latium, cela pendant plusieurs années. Alors le pape va essayer de faire autre chose, d'agir autrement. Et notamment, il va réunir l'épiscopat autour de lui. Il y aura la canonisation des martyrs du Japon en 1862. 323 évêques, 4000 prêtres, 100 000 fidèles viennent à Rome à cette occasion. Vous voyez, il a repris ce qu'avait lancé Léon XII de réunir quelque part un petit peu le monde entier autour du pape à Rome. Cette démonstration, d'ailleurs, aura un certain effet sur l'opinion publique. Alors après, eh bien, Napoléon III, il est quand même un petit peu, si vous voulez, divisé en lui-même. Parce qu'à la fois, il a beaucoup de sympathie pour les piémontais, mais à la fois, il voit quand même qu'on ne peut pas aller trop loin et il faut laisser le pape garantir que le pape possède la ville de Rome. En effet, l'épiscopat français, qui a soutenu énormément Napoléon III dans la première décennie du Second Empire, à partir de 1860, à partir de, si vous voulez, de cette quasi-disparition de l'État pontifical, l'épiscopat français est de plus en plus réticent en face de l'empereur qui, à ses yeux, joue double jeu. Alors, une convention est signée entre la France et l'Italie le 15 septembre 1864, en dehors du pape d'ailleurs. Eh bien, l'Italie s'engage à respecter ce qui reste des États de l'Église et a installé sa capitale à Florence, moyennant quoi les troupes françaises qui sont là, à Rome, qui occupent Rome et Latium, doivent partir dans l'espace de 2 ans. Alors, 1866, les derniers bataillons français se rembarquent et le relais doit passer donc aux Zouaves pontificaux et normalement, eh bien, on devrait, l'armée italienne devrait les respecter pour peu qu'ils ne passent pas à l'offensive. Ils ont été réorganisés par le colonel de Bec de Lièvre à partir de 61. Ils ne sont pas très nombreux. Au total, vous n'avez plus qu'environ 3000 Zouaves. Voilà. Il y a au total environ 9000 Zouaves, si vous voulez, mais il y en aura à peu près 3000 simultanément, si vous voulez, qui vont être là. Ils sont de 25 nationalités, les plus nombreux étant dans l'ordre les Hollandais, puis les Français et les Belges. Alors on les appelle Zouaves, n'est-ce pas, parce que c'est la Mauricière qui leur avait donné cet uniforme de Zouaves, de troupes qu'ils commandaient en Algérie. Alors, on va quand même les moderniser au niveau notamment de l'armement. On achète un fusil Remington suédois moderne en 1868. Voilà. Mais Rode a été remplacé. Il a été remplacé parce qu'il était vraiment très impopulaire auprès de la Curie. Et ça sera à la fin, le ministre des Armes, c'est un Allemand, le général Hermann Kanzler, du Grand-Duché de Bade, qui servait dans l'armée pontificale. Et c'est lui qui va garder, si vous voulez, qui va diriger véritablement les Zouaves, donc dans la dernière période, avec comme numéro 2 Charette. Je ne sais plus quel grade, il doit être colonel de Charette à ce moment-là. Mais les troupes françaises sont parties. Évidemment, Garibaldi s'agite, il s'impatiente de l'inertie du gouvernement piémontais italien après le retrait de l'armée française. Enfin, il dit, mais qu'attendez-vous ? Allons-y, les Français sont partis, on peut envahir. Et 1er octobre 67, eh bien, il va lancer l'offensive, prend une petite ville, Bagno Reggio, vers Orvieto. La ville est reprise par les Zouaves de vive force. Un autre affrontement à Montelibretti. Et là encore, eh bien, les Zouaves vont l'emporter. C'est à ce moment-là, Garibaldi est encore en résidence surveillée et c'est son fils qui mène les troupes garibaldiennes. Et puis, Garibaldi va s'évader de l'île de Caprera. On est à la fin octobre 1867. Il prend le commandement de sa troupe qui compte 7000 hommes. Et là, il va se diriger vers Rome. Les troupes françaises sont à Civitavecchia. Ils se replient vers Monte Rotondo. Et puis, en fait, l'armée pontificale, donc il y a 3000 hommes pour attaquer Garibaldi. Garibaldi, il a à peu près 10 000 hommes. La bataille va se faire au village de Mentana, qui est un gros bourg enfoncé dans une vallée, dominé par une forteresse. Et finalement, eh bien, les troupes pontificales, les Zouaves, ont le dessus, mais ne peuvent pas l'emporter. Et finalement, ils vont faire appel aux Français, parce que voyant l'offensive de Garibaldi, une troupe française a été renvoyée là-bas, colonel De Failly, et les troupes françaises vont aider dans la dernière partie de la journée les Zouaves pour reprendre la ville de Mentana. Et c'est la fameuse phrase « les chassepots ont fait merveille », le chassepot qui était la nouvelle arme de l'armée française. Et là, c'est fini. Garibaldi se retire et on va en rester là. Ça va être le statu quo jusqu'à 1870, sauf une certaine fois où, inaugurant quelque chose qui se refera beaucoup plus tard au Liban, eh bien, les Garibaldiens feront sauter la caserne où est stationnée une troupe française. La capitulation de 70. Eh bien, voilà, vous avez après Mentana le fameux mot de Rouher à la Chambre. Jamais. Voilà, le jamais de Rouher. Nous le déclarons au nom du gouvernement français. L'Italie ne s'emparera pas de Rome, jamais la France ne supportera cette violence faite à son honneur et à la catholicité. Magnifique phrase, n'est-ce pas, décembre 67, mais malheureusement, la France ne tiendra pas sa parole. Et en juillet 70, voulant ménager dans la guerre avec la Prusse la neutralité de l'Italie, eh bien, la France négociera finalement le retrait de ses troupes de Rome. À ce moment-là, bien entendu, le général Cadorna qui commande l'armée italienne, l'armée piémontaise, va décider d'entrer dans Rome. À ce moment-là, le pape ne peut lui opposer que 13 000 hommes, dont 3 000 zouaves. L'armée italienne est de 70 000 hommes. Et il y aura donc le combat de la Porta Pia, où le pape a demandé à Kanzler de n'offrir qu'une résistance symbolique. Nous voulons que la résistance soit suffisamment limitée pour démontrer la réalité d'une agression et rien de plus. Réponse de Kanzler, sainteté, l'armée entière cherche à combattre et à mourir. Nous lui demandons de se rendre et non pas de mourir, ce qui est un sacrifice plus grand. Et le pape va confirmer par lettre la teneur de l'entretien, parce qu'il doute un petit peu des dispositions de Kanzler, vous comprenez bien. Il dit, quant à la durée de la défense, j'ai le devoir d'ordonner qu'elle consiste uniquement en une protestation propre à constater la violence et rien de plus, c'est-à-dire que l'on ouvre les pourparlers de la reddition au premier coup de canon. Voilà. Alors en fait, l'armée pontificale va résister davantage, il y aura une vingtaine de tués. Bon, la capitulation stipule l'occupation de la ville, sauf la partie comprenant le Vatican, le château Saint-Ange, la cité léonine et le renvoi des étrangers dans leur pays. Donc les zouaves vont repartir dans leur pays sous les huées et les crachats. L'épilogue. Le 13 mai 71, le Parlement italien vote la loi des garanties, mais le pape refuse de l'accepter, estimant que cette assurance n'offre aucun caractère d'irrévocabilité. Par ailleurs, elle répond au principe de séparation des Églises et de l'État, que la papauté rejette, le voyant non dans une perspective de liberté, mais dans celle d'un contrôle de l'État. La politique italienne des années suivantes montre, me semble-t-il, le bien fondé du refus du pape. Car les mesures vexatoires vont se poursuivre. Dans Rome, avec la confiscation du collège romain, c'est l'université grégorienne, la confiscation de la plupart des couvents de la ville de Rome, y compris les maisons généralistes des grands ordres religieux, avec aussi l'obligation du service militaire pour les clercs, ainsi que l'interdiction des processions et des pèlerinages. L'entourage papal entretient encore l'espoir d'un retour de ces États et met en place de nombreux congrès de catholiques en Europe pour stimuler l'action d'hommes influents auprès de leur gouvernement. C'est ce que j'avais étudié dans mon habilitation sur les comités catholiques, qui était la branche française de ce qu'on a appelé l'international noir. Voilà, on a fait tout un colloque européen sur le sujet. En Italie, en revanche, voyez, on va essayer à l'étranger que des laïcs influents puissent pousser leur gouvernement à intervenir militairement en Italie. Mais en Italie, eh bien, la consigne, c'est de s'abstenir de toute participation politique pour désavouer la légitimité du gouvernement. C'est la politique du non-expédit, avec la consigne « ne eletti, ne elettori », hein, « ni élu, ni électeur ». Voilà. Mais cette politique, elle est belle sur le papier, mais elle offre un inconvénient majeur, c'est de laisser évidemment le champ libre en politique en Italie aux ennemis de l'Église. Et c'est le pape Pie X qui va essayer, sans bien sûr désavouer ses deux prédécesseurs de vénérée mémoire, mais il va quand même essayer de faire l'inverse. Alors la tension va s'apaiser après la Première Guerre mondiale. Benoît XV renonce au non-expédit, ce qu'avait donc envisagé Pie X déjà. Par l'encyclique Pacem de Munus du 23 mai 1920, il lève l'interdiction faite aux chefs d'État catholiques de se rendre en visite officielle au Quirinal. Et oui, parce que le Quirinal, c'était le palais du pape. C'était là où il siégeait dans Rome. Et attention aux anachronismes, hein, ne parlez pas du Vatican avant 1870. Hein, le pape n'est pas au Vatican. Enfin, il n'y est pas à demeure, si vous voulez. Hein. Sa cathédrale et les palais, c'est le Latran, bien sûr. Mais le palais du gouvernement pontifical, c'est le Quirinal. Mais le Quirinal a été pris. Il a été pris et c'est le chef du gouvernement italien qui l'occupe désormais. Donc, il a spolié carrément le pape. Et quand vous avez le président de la République française, Émile Loubet, eh bien, qui va se rendre en visite là-bas à Rome et qui va rendre visite au roi au Quirinal, évidemment, le pape va protester diplomatiquement, ce qui sera l'une des causes invoquées pour la séparation de 1905. Alors, les choses donc s'apaisent, vous le voyez, vers 1920. À la veille du fascisme, d'ailleurs, la hiérarchie catholique et la classe dirigeante font le choix de l'indulgence envers les formations paramilitaires fascistes en abandonnant le parti populaire italien de Don Luigi Sturzo. Sturzo, donc, qui avait lancé un parti dans les, si vous voulez, dans l'orientation démocratie chrétienne. Alors, on est, il faut bien le reconnaître, si vous voulez, l'époque mussolinienne, de l'avènement de Mussolini, c'est une époque très difficile, où on se demande si le communisme ne va pas submerger l'Italie. Voilà. Alors, les négociations vont être ouvertes en 1926. Elles vont se terminer en 1929, par les accords du Latran, le 11 février 1929. Trois volets aux accords du Latran. Un traité destiné à régler la question romaine. Une convention financière devant liquider, entre guillemets, les événements de 1870. Et un concordat. Merci d'ailleurs pour la convention financière. Ça permettra de construire quelques palais pour les congrégations romaines dans Rome qui bénéficieront d'extraterritorialité, et ça permet de faire Radio Vatican. Plusieurs crises se feront jour dans la suite, et notamment à cause de la tentative de Mussolini de mettre la main sur la jeunesse, sur les mouvements de jeunesse de l'Action catholique. Finalement, ça s'arrangera par un compromis. La chute du fascisme et de la monarchie ne remet pas en cause les accords du Latran qui seront reconnus solennellement dans les articles 7 et 138 de la Constitution italienne. Voilà, quelques mots de conclusion. Eh bien, alors que Pie IX n'imaginait pas que la papauté puisse garder son indépendance et sa liberté sans posséder un État qui soit à elle, l'un de ses successeurs, Pie XI, a eu le courage de passer par-dessus tous les arriérés de la spoliation des années 60-70 pour solder enfin la question romaine et assurer, par la création de l'État de la Cité du Vatican, le minimum nécessaire à cette indépendance et à la visibilité du royaume du Christ sur la terre. Mais surtout, par les encycliques qu'il a publiées en face des régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres, il a posé pour la papauté la clé de voûte d'une légitimité pour ses prises de position dans le domaine politique qui ont conduit à ce que sa parole puisse désormais être adressée avec une certaine autorité doctrinale à l'ensemble des nations, même non catholiques. Avec l'intervention de Paul VI à l'ONU, on peut considérer, d'une certaine manière, que la boucle est bouclée. La parole de ses successeurs est désormais reçue, dans ce cadre universel et laïque, comme la voix de la conscience chrétienne parlant au monde.